Bienvenue sur le podcast Nées en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessibles des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leurs récits d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances.
Et donc, voilà, je vois doucement qu'on arrive à 41 semaines. J'avais négocié avec ma gynéco, je pense à 41 plus 3 en déclenchement. J'avais comme espoir de pouvoir négocier 2 jours en plus parce que j'avais 2 dates d'accouchement, 2 dates de terme chez 2 différents gynécos. Donc voilà, je me disais, je peux un peu jouer là-dessus. D'où le poids du bébé où je me dis, bon, c'est un petit bébé, donc on m'a pas trop embêté avec le poids parce que voilà, il est né avec 4,2 kg. Donc je pense que s'ils avaient su que c'était un gros bébé, je pense qu'on m'aurait pas. Voilà, potentiellement on m'aurait pas laissé aller tu vois aussi loin, je pense. Peut-être on aurait un peu plus
Il y aurait peut-être une pression,
c'est ça, plus, c'est plus... ça de donc... me dire voilà, je commence à doucement me dire là j'active un peu les femmes du cercle prénatal en mode ah, vous avez pas des petits tips pour faire avancer. Bon, on connaît tous la tisane de framboisier, les dates, tu vois, tout ça j'avais déjà fait marcher, enfin. Et donc là aussi, je commence à prendre des tisanes de sauge, voilà, en plus pour aider un petit peu. J'avais été faire de l'acupuncture, j'avais fait mes vitres, voilà, juste pour me mettre en mouvement, quoi. Et j'avais été chez la kiné et en fait, je me dis, j'avais vraiment l'impression que, tu vois, on avait tellement subi tellement de stress pendant cette grossesse, mon bébé avait besoin de temps. Tu vois, pour arriver qu'il était là-haut. On m'a stressée là pendant 37 semaines. Là, je prends juste mon temps pour arriver. Et puis pour moi aussi, en fait, de vraiment profiter un peu de cette grossesse. Ouais, j'avais besoin vraiment de ce temps aussi. Aussi d'être sûre que tout était OK avec mon grand, que tout était mis en place, sachant aussi qu'il était tombé malade juste avant, quand j'étais censée accoucher. Donc, ouais, c'était aussi toute une... toute une logistique en plus à avoir parce qu'il n'était pas à l'école, enfin voilà, il n'était pas à la crèche, etc. Le dimanche soir, le 8 mai, je commence doucement à avoir des contractions. Ben voilà, espacé de 4 minutes, pas grand-chose, mais je me dis, ah, On est le dimanche, je commence doucement à avoir des petites contractions le soir. Je me dis, ah, j'ai peut-être quand même commencé à activer voilà, les différentes personnes autour de nous qui doivent s'occuper de mon grand, etc. Dire, bah voilà, j'ai l'impression que ça se met en route, mais on vous tiendra au courant. Parce que ça aussi, quand t'as un grand à gérer, bah, du coup, c'est aussi toute une autre logistique que juste de dire, bon, j'y vais comme ça. Mais voilà, ça n'a pas l'air de plus s'enclencher. Je me dis, bon, on va aller dormir. Parce que comme mon premier, ça s'était activé à minuit, je me suis dit, bon, comme ça, au moins, j'ai quelques heures de sommeil dans les jambes. Si jamais à minuit, ça commence. Je me réveille une fois pendant la nuit, plus rien. Je me dis, bon, demain, je vais devoir aller marcher un peu. Je pense déjà au magasin où je vais devoir aller. Enfin, toi, mettre un peu des objectifs pour aller marcher. Et puis, je me réveille à 5h du matin. Et là, à 5h, elles arrivent en vague. Bien, ouh, hein, j'arrive plus à trop à rester couchée. Où je me mets à 4 pattes dans le lit. La veille, j'avais regardé dans mes notes un peu ce que Karine, la sage-femme, recommandait, etc. Donc, je m'étais réimbibée de tout ça. Donc, bon, je me mets à 4 pattes dans mon lit à chaque contraction, puis je me recouche, et puis je me remets à 4 pattes. je me recouche. Et elles sont quand même déjà, déjà bien intenses. Puis à un moment, je me dis, bon, je vais quand même réveiller Joe parce qu'elles sont, elles sont bien, bien là. Je pense qu'à un moment, je vais aux toilettes, je reviens et je vois aussi qu'entre les contractions, ça devient un peu plus difficile, tu vois. Puis aussi pour les contractions, je dois m'accrocher, quoi. Je peux pas juste les passer comme ça. Donc, je réveille mon mari vers 5h15. Donc, tu vois, vraiment un quart d'heure après. Je commence un peu à rassembler certaines choses. Puis à 5h30, je décide de prendre une douche. Et mon mari me demande, ah, est-ce que j'appellerai ton papa? Et je lui dis, ah, c'est mon papa qui, du coup, en cas d'urgence, venait à la maison pour garder mon grand. Je fais, ah non, non, attends encore un peu, ça va, ça va. Je prends ma douche. Sortir de la douche, je dis, ouais, en fait, appelle quand même mon papa. Parce que je sentais que... Il dit, oui, je l'ai déjà appelé. Ok, bon, super. Et là, je dois dire, on a été une super équipe parce que à chaque contraction, je l'appelais et alors il venait appuyer dans mon dos avec ses deux poings. Et moi, une des positions qui était miraculeuse et qui m'aidait beaucoup, c'était vraiment de me pendre à quelque chose et de m'accroupir, tu vois. Et là, j'avais vraiment l'impression que je faisais le passage, enfin que je facilitais le passage à mon bébé, quoi, en me mettant comme ça. C'était vraiment la position qui était géniale pour nous deux. Comme quoi il faut parfois pas avoir 10 positions et une position, ça c'est parfait. À 5h45, j'envoie quand même moi aussi un message à la kiné en disant ça arrive, je crois, on va doucement prendre la route. Là, j'essaye de rassembler déjà mes petites affaires à gauche, à droite. Et là, je peux te dire que j'arrivais même plus à prendre un truc sans avoir une contraction, quoi. Donc, je voyais que ça commençait à vraiment très très fort comment te dire ?
Se rapprocher ?
Se rapprocher, voilà. Se rapprocher. Heureusement, à 6h, mon père arrive. Donc on va doucement dire au revoir à mon plus petit, on décide de le réveiller à mon plus grand pour lui dire qu'on y va. Je me rappellerai toujours que j'avais dû aller chercher quelque chose en bas à la maison. Mon père était assis à la table en attendant que Louis se réveille. Et alors là j'ai une contraction, je suis dans les escaliers, donc j'essaye de la gérer comme je peux, quoi. Et là mon père me regarde et me dit « Ça va? T'as mal ?» Oui.
Que dire?
Que dirais-je? Enfin bon. Et je voulais juste sortir de cette maison parce que je sentais que ça commençait vraiment de plus en plus à être difficile à gérer et j'avais pas envie de devoir gérer ça devant mon père et mon fils, quoi. Donc voilà, on met tout dans la voiture. Je dis à mon mari, ah, attends, avant de partir, je vais t'aller une dernière fois aux toilettes. Et en fait, là, pour moi, ça aurait dû être le signal d'alarme que ça commençait vraiment à être très, très, très engagé. Ben, voilà, quand tu as un peu l'impression que tu dois aller aux toilettes et que tu dois pousser, c'est que, voilà, c'est quand même bien engagé. Mais j'ai pas eu de sonnette d'alarme, tu vois. Je suis go. Bon, on va dans la voiture, sachant que j'avais normalement 20 minutes de route pour arriver à l'hôpital. Et les contractions, là, deviennent de plus en plus intenses. Je me souviens que je faisais... je criais dans la voix... Enfin, j'avais vraiment ce truc bouche molle, col mou. Donc, j'essayais vraiment de faire des vocalises, de passer les contractions, voilà, en m'accrochant comme je pouvais à ce truc-là, tu sais, en haut. À essayer de ne pas être en arrière parce que... Je me souvenais que Karine avait dit qu'il fallait vraiment essayer de rester en avant, justement, pour éviter d'arrêter le travail. Bon, j'ai tellement d'arrêter le travail, mais voilà, j'essayais vraiment d'être là-dedans. Et là, je sens que je commence à devoir pousser. On est à fond sur l'autoroute. Je pense que Joe, il met ses quatre phares, enfin, toi, ses lumières. Et on fonce, et on fonce, et on arrive à ce fameux pont à Oudergem. Et là, je dis à Jo, je dois pousser, je sens la tête, je sens qu'elle arrive, quoi. Et là, je commence à pousser dans cette voiture, et réflexe, hein, je ne contrôle plus rien. Et là, je pousse, et puis je sens un truc exploser. Et en fait, c'est ma poche des os qui avait explosé dans la voiture. Ça a fait vraiment l'effet d'un énorme ballon, comme ça, qui gonfle, et puis voilà, qui éclate. Et
petit détail, tu étais habillée comment à ce moment-là? C'était quelle saison? Tu nous rappelles un peu?
Alors, c'était en mai, j'avais un legging, et j'avais mes Converse. que j'avais attaché avec un double nœud.
Les Converse là qui sont dans l'entrée?
Qui sont là, exactement. Okay.
C'est ça la petite odeur
que j'ai lavée depuis. Donc ouais, et en fait je suis trempée, la voiture est trempée. On avait mis un essuie qui n'a pas servi à grand chose finalement. Et là on appelle la maternité, il est 6h39, on appelle la maternité, sachant qu'on était parti à 6h24 de la maison. Et là on leur dit en fait que j'ai rompu ma poche. On arrive à Oudergem, on passe tous les feux rouges, les feux oranges qui deviennent rouges, on les passe. Je dis à mon mari, là, on est question de seconde, quoi. Et il prend même pas le temps de parquer la voiture, il se parque un peu en... Voilà, comme il peut. Il court hors de la voiture, il va chercher une chaise roulante. Je sors de la voiture et là, je sens une contraction mais énorme qui me traverse. Je m'accroche à cette voiture, je me mets accroupie. Et là, je dis à Jo, je dois pousser, la tête est là. Et là, je me vois, comme tu sais, dans cette émission Baby Boom, où t'as la femme qui accouche sur le trottoir. Je me vois faire ça, quoi. Et je me dis, oh mon Dieu. Et je m'entends encore crier dans cet énorme hall où t'entends... Toi, c'est des grands buildings comme ça, et ça fait écho, et j'entends mon cri... parce que ouais, il était là, quoi, et donc Jo arrive avec cette petite truc, et puis je me dis bon, ok, 1, 2, 3, je monte sur la chaise, il prend la chaise, il va aux urgences. Là, la dame des urgences, elle commence à me parler, je fais la tête est là, on monte, quoi. Heureusement, il y a un monsieur qui arrive vite avec en vert, enfin avec une chemise verte, qui nous conduit vers les salles d'accouchement. Heureusement, j'avais appelé la maternité encore en quittant la maison. J'avais appelé la maternité. Donc, il y avait deux sages-femmes qui étaient bien au courant que j'arrivais. Et là, elle m'emmène dans une salle de naissance. Et là, directement, je fais « Mais moi, je veux la salle nature. » Ça, c'est dans mes prérequis. Mmh. Elle me dit « Mais madame, elle n'est pas disponible. » Et je fais « Ah oui, mais enfin, en même temps, la tête est là. » Donc, quand même, c'est plus nécessaire. Voilà. Et là, je suis dans cette chaise. J'ai encore une contraction. Et là, la sage-femme me dit « Là, il faut vraiment que vous vous leviez. Faut que vous alliez sur la table, quoi. » Et donc, je réussis tant bien que mal à me porter sur cette table et à me rouler sur cette table. Et alors là, elles abaissent mon legging, ma culotte. Bon, ben j'ai mes Converse qu'elles n'arrivent pas à enlever parce que j'avais fait un double nœud en partant et qu'elles n'arrivent pas à l'enlever. Donc, elles enlèvent tant bien que mal une jambe de mon legging pour la naissance, quoi. Et là, je dis, attendez, je dois récupérer mes esprits. Elle est là, non, vous poussez maintenant, vous poussez. Je dis, ok, bon. Alors là, je pousse, pouf, la tête sort en une fois. Elle me dit, bon, on pousse une seconde fois les épaules et puis c'est fini. Et je repousse une seconde fois et pouf, les épaules. Et voilà, à 6h50, elle était là. Elle était là. Ouais, je dis, il est là, ok, bon. Tu vois, vraiment, c'était une question de seconde, quoi. C'était vraiment... J'ai accouché avec mes Converse.
Oh, c'est un bon titre. T'es pas obligée, mais j'aime bien.
J'étais là, mon Dieu, mais c'est incroyable ce qui vient de... Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans... Ouais. Dans un autre monde, quoi. Quand ça... Il était là, il était contre moi, il allait bien, il était en pleine santé. Il était super beau. Vraiment, c'était... voilà, je me suis dit, on l'a fait. 9 mois voilà, qui n'ont pas été simples, il est là dans mes bras, quoi. C'était la conclusion, et là, tu ressens un amour énorme. Et il me regarde avec ses petits yeux, et je me dis, oh, mon Dieu, c'est la plus belle chose au monde. Je suis fière de nous, je suis fière de mon mari, je suis fière de comment il a géré le truc avec... en étant hyper zen. Mon mari est Jack, une personne très zen à la base, mais là, quand même, avoir sa femme à côté qui est en train d'hurler et de rester aussi, aussi maître de ses émotions, à tout gérer, hyper cartésien, hyper... voilà. On a vraiment fait ça comme une équipe. Du coup, la kiné n'a pas eu le temps d'arriver, oui. La gynéco n'a pas eu le temps d'arriver.
T'as pas eu besoin de gardienne de l'espace, enfin.
J'ai pas eu besoin de... Parce que j'avais préparé plein de petites lumières avec mes mantras, tu vois. J'ai pas eu besoin de ma playlist, j'ai pas eu besoin de mes méditations, tout, et tu sais... Voilà. Voilà. C'était assez dingue. Mon seul regret, de nouveau, c'est de pas avoir ma gardienne d'espace pour dire, en fait, non, elle monte pas sur cette table. Ce que j'ai voulu essayer de pas monter, en fait, j'ai pas eu trop de choix, quoi. Et alors, ouais, pour le clampage du cordon, moi je voulais un clampage tardif, quoi, et ma gynéco était tout à fait d'accord avec ça. Donc très vite, en fait, la sage-femme demande, monsieur, vous voulez couper le cordon? Et je fais, non, vous laissez, vous attendez, quoi, tu vois. Et elle dit, mais on peut pas le laisser trop longtemps, c'est dangereux. Je fais, non. Non, vous le laissez, enfin... Et en fait, elle vient avec toutes ses peurs, et je me dis, dangereux, mais dangereux pourquoi? Enfin, alors que je sais qu'il n'y a pas de danger, mais c'est difficile, du coup, dans cette situation-là, de nouveau, t'as un peu ce truc syndrome de la blouse blanche... et en fait, de nouveau, je me dis, en tant que femme qui accouche, t'es un peu dans une cette incapacité, en fait, de te faire prévaloir ce que tu souhaites, en fait, tu vois. Et c'est là que, de nouveau, la gardienne d'espace est hyper importante pour remettre un peu les envies et de la femme au centre. Je réussis tant bien que mal à lui dire, on attend au moins que le cordon ne batte plus. Et je pense qu'au bout de 3 à 4 minutes, alors, elle me dit, regardez, il est tout blanc. Oui, elle voulait que ce soit fait, quoi. Et donc là, je dis, ok, c'est bon, on peut le clamper. Mais je me suis dit, ah, c'est fou quand même, comment tu peux vite venir avec des peurs, en fait, tu vois, et te faire vite happer là-dedans et que ton projet de naissance puisse être vite un peu balayé, quoi. Puis voilà, il m'injecte l'ocytocine de synthèse pour le placenta. Et voilà, je vérifie bien que ça n'a pas d'impact sur le fait qu'après je voulais l'encapsuler. Finalement, voilà, il n'y avait pas d'impact. Donc, il m'injecte l'ocytocine de synthèse et le placenta se délivre très facilement après, quelques minutes plus tard. Et elles acceptent aussi, du coup, de le garder. Elles le mettent dans un petit bucket blanc, comme ça, tu sais, dans lequel tu mets la mayonnaise. Ou, enfin, tu vois. Et voilà. Et la gynécologue arrive après coup. J'ai 2 petites éraillures, vraiment rien de spécial. Et on commence à se découvrir avec Charlie, quoi. Ça a été un postpartum pour moi très doux. Et en même temps, je trouve que chaque postpartum peut vraiment être aussi rempli de petits challenges du quotidien. Typiquement, Charlie ne prenait pas de poids à la naissance. Et donc, du coup, rentrer à la maison, il ne prenait pas assez de poids. J'avais une sage-femme qui venait tous les jours. Ça, c'était génial, j'avais mis ça en place. J'avais trouvé une super sage-femme avec qui j'avais une super connexion. Et ça, au nouveau, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est important d'avoir une bonne connexion avec ta sage-femme, tu vois. Elle était vraiment là pour m'accompagner. Mais donc l'allaitement a pris beaucoup de temps à se mettre vraiment en place. Je devais jongler. D'abord, on a essayé juste avec l'allaitement 100%. Mm-hmm. Puis en fait, il prenait pas assez de poids. Donc du coup, je devais allaiter, pomper mon lait, donner le lait que j'avais tirer mon lait, puis attendre la prochaine tétée, donner le lait tiré, puis tirer mon lait.
Et tu lui donnais comment du coup?
Ben alors là, du coup, c'était aussi tout un truc parce qu'il acceptait. Oui, on lui donnait avec un biberon spécial, un Medela, je pense. Mais il acceptait pas beaucoup le biberon. Alors à un moment aussi, on avait essayé avec une espèce de fil comme ça, enfin de tube.
Le dispositif d'aide à l'allaitement, le DAL.
Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et voilà, mais c'était vraiment lourd en fait, parce que du coup, t'étais non-stop là-dedans. Et déjà, le fait d'allaiter, puis tirer, puis, enfin, tu vois, puis redonner le lait que tu tires, en fait, tu fais plus que ça.
T'avais plus de pause, ouais, non, c'est clair.
Puis après, ben, t'as ton second qui est là, enfin, ton premier qui est là.
Ton
premier. Et du coup, t'es un peu là, ouf, c'est beaucoup à gérer. Donc j'avais quand même ce chouette accompagnement sage-femme qui était là. Je pense qu'elle est venue vraiment facilement 2 semaines, presque tous les jours. Ça me permettait vraiment d'échanger avec elle énormément. J'avais aussi donc mis en place avec une doula qui venait. Et je t'avoue que ça, moi, j'en ai ressenti moins le besoin à ce moment-là. Surtout au début, parce qu'en fait, j'avais déjà tous les jours ma sage-femme qui venait pour l'allaitement. Mmh. Et donc, pour moi, avoir 2 visites par jour, c'était trop. Mmh. Ce qui était hyper aidant, c'était avoir des petits plats. Mmh. Elle venait m'apporter de temps en temps des plats délicieux. Et ça, c'était vraiment génial qu'on ne doive pas cuisiner avec mon mari. Mmh. On se sentait comme des rois, quoi. On était trop bien. Ce qui m'avait énormément aidée aussi en postpartum, c'est que j'avais fait des cours de portage avec Amandine avant d'accoucher. Et ça a été le meilleur outil de ma vie parce que j'avais un bébé pendant les 4 premiers mois de sa vie, il ne voulait pas dormir dans un lit. Et il ne dormait que sur moi et en portage. Et en fait, du coup, ça m'a vraiment sauvée d'avoir ces moyens de portage. J'avais un sling, j'avais un autre avec des ceintures et ça je me suis dit aussi en fait tu vois il y a des mamans peut-être elles n'ont pas accès à cette information et à des cours de portage ou peut-être elles ne savent pas qu'il y a différents types de portage et pour moi ça a été tellement précieux quoi d'avoir ça et puis en fait en postpartum aussi ce qui m'a beaucoup aidée c'était d'être juste entourée, tu vois, entourée de toutes ces femmes ben, qui avaient accouché au fur et à mesure de mes cercles en prénatal. Typiquement, j'avais...
Mm-hmm. Tu veux dire une copine ?
Oui, avec une amie que j'avais rencontrée pendant ces cercles en prénatal, voilà, où on pouvait échanger sur nos difficultés, voilà, par rapport à l'allaitement, par rapport aux nuits compliquées. Voilà, c'était génial d'avoir ce soutien. J'ai aussi commencé, aussi avec Amandine, j'avais commencé les cercles en postnatal, cercle maman bébé. Et donc moi, c'était pour moi des bulles de douceur qui me faisaient trop du bien, qui me permettaient de sortir de chez moi. Et voilà, l'espace de quelques heures, être avec d'autres femmes, avec des bébés du même âge que Charlie. Et surtout, de pouvoir échanger sur d'autres choses que juste... Mon bébé mange pas, mon bébé dort pas, tu vois. De pouvoir vraiment un peu de nouveau se remettre un peu au centre, voilà, en termes de questionnement et de parler de nous en tant que femme, en tant que mère, mais voilà, de moins aborder ces sujets, voilà, ou peut-être, oui, de moins aborder ces autres sujets. Voilà, du quotidien un peu, tu vois. Mmh, mmh. On en parlait aussi, tu vois, mais Ça permettait aussi d'avoir d'autres conversations qui, moi, me faisaient énormément de bien. Je me dis vraiment que le postpartum, tu vois, ça peut être vraiment... C'est un peu cette dualité de se dire que ça peut être très doux et en même temps très difficile à la fois, et très, très court et très long. Et ça, t'es un peu dans un espace-temps comme ça, tellement spécial. Et ici, dans ce postpartum aussi, qui a été très, très challengeant pour moi, c'était que j'étais plus seule. Enfin, on était plus seule, on avait un autre enfant qui était là, Louis. Et... pour moi aussi, ça a été un peu la partie challengeante de ce second postpartum. C'était que j'avais deux enfants avec des besoins diamétralement différents. Quand l'un devait dormir, l'autre voulait jouer. Quand l'un voulait manger, il voulait jouer. Enfin, et du coup, c'était Charlie qui avait besoin de calme pour dormir, pour manger. En fait, du coup... T'avais Louis qui, lui, il voulait jouer. Quand j'allaitais, il était en train de sauter à côté de moi. Mais alors, Charlie n'était pas content. Du coup, j'avais déjà des problèmes pour allaiter. Alors, du coup, ça rendait les choses encore plus compliquées. À cette époque, Louis avait 2 ans et 3 mois. Donc, il était encore petit. Je ne pouvais pas le laisser tout seul. Ou très peu, enfin... On a une maison avec beaucoup d'étages, tu vois. Et donc, du coup, ben, quand moi, j'étais dans la chambre de Charlie qui est tout en haut, je ne pouvais pas laisser mon plus petit en bas sans surveillance. À cette époque, lui, en tout cas, à cet âge-là, moi, c'était pas bien de le laisser... Enfin, c'était pas sécure de le laisser seul. Donc, voilà, c'était vraiment quelque chose qui était pour moi pas facile à gérer. Comme je dis, tu avais deux enfants avec des besoins complètement différents à différents moments de la journée. Et puis même, tu vois, le soir, quand Charlie faisait ses décharges, ben Louis avait besoin de dormir. Tu vois, ça va aussi à ce niveau-là, quoi. Et j'ai beaucoup culpabilisé, je pense, au début, de me dire, ah, Alex, tu vois, toutes ces mamans, elles gèrent hyper bien, deux enfants, et toi... tu galères. Moi, je dis toujours, jusqu'aux 6 mois de Charlie, c'était pour moi très difficile d'être toute seule avec les deux. J'avais besoin que Joe soit là pour être avec Louis quand j'étais avec Charlie. Mais voilà, le peu de fois où je m'étais retrouvée seule avec les deux, j'avais trouvé ça très, très challengeant. Et j'avais très peu entendu, tu vois. Donc moi, j'avais l'impression un peu que tu rentrais là-dedans... Un peu naturellement, en douceur, sans difficulté. Et j'aurais bien voulu qu'on me dise, tu sais, c'est ok, maman. Avec un, c'était déjà challengeant pour toi de te faire à cette nouvelle vie avec un bébé, etc. Et ici, c'est ok que ce soit challengeant de te faire à cette nouvelle vie avec deux enfants en bas âge. Et c'est normal que ce soit pas hyper simple, tu vois. C'est normal de trouver ça certains jours compliqués. Puis aussi, avec le plus grand, à ce moment-là, c'est un peu terrible too, où il s'affirme super fort. Et puis l'arrivée du bébé, ça vient quand même déstabiliser tout un équilibre que tu as construit à trois. Et vraiment, j'aurais bien voulu qu'on me dise c'est ok, maman, quoi. C'est ok de trouver pas ça pas facile. Et tu verras, à un moment, ça ira. Comme on dit, c'est une phrase parfois qu'on déteste, c'est tout passe. Sur le moment même, t'as juste envie de baffer la personne qui te le dit, quoi. Mais en effet, tout passe. Et puis à un moment, tu te dis, ah, c'est quand même gay là, d'être à trois, là, tu vois, de savoir gérer les deux et de passer des moments à trois. Et...
c'est trop chouette. Alors, chère Alexandra, est-ce que pour clôturer ces deux épisodes, est-ce que tu as un message général ou plusieurs que tu aimerais transmettre ? Voilà. Je dis pas le mot conseil, mais voilà, qu'est-ce qui te viendrait pour clôturer ce bel épisode ?
Informez-vous, comprenez votre corps, comprenez comment il fonctionne, parce qu'en fait, très vite, Une fois que vous aurez compris comment il fonctionne, ça va être très naturel de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, en fait. Et le fait n'est pas de dire non à toute intervention, mais juste de pouvoir prendre des décisions en conscience et d'être responsable de ces décisions et de savoir les tenants et les aboutissants, voilà, des décisions que l'on prend dans le cadre d'un accouchement. Parce qu'en fait, on gagne vraiment en puissance à avoir ces informations-là, vraiment très basiques de comment notre corps fonctionne. Vraiment, ça nous donne un empowerment énorme, je trouve. Et d'autre part, d'être entouré. Franchement, ça change tout un postpartum d'être entouré. De faire partie de cercle de maman bébé, de faire des cercles en prénatal en amont pour connecter avec d'autres mamans. Moi, ça a transformé mon postpartum. Ça m'a vraiment permis à certains moments de garder la tête hors de l'eau, quoi, de savoir que voilà, si à un moment j'avais un petit coup de déprime, de pouvoir facilement contacter une maman qui vivait la même chose que moi à ce moment-là, ça n'avait pas de prix.
Merci beaucoup Alexandra pour ce partage hyper riche, avec beaucoup de thématiques, t'as abordé plein de choses, pliqui-ploc, là, il y a moyen de retirer beaucoup d'enseignements et d'inspiration, voilà. Donc j'espère que voilà, les auditrices en auront profité autant que moi. Voilà, merci beaucoup Alexandra.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt !